Chapitre 16. Ça marche toujours. Les jeunes époux, à leur arrivée dans Harley Street, Cavendish Square, Londres, furent reçus par le maître d'hôtel. Cet imposant serviteur ne s'intéressait pas du tout à eux, mais, en somme, il voulut bien les souffrir. Il faut que l'on se marie, autrement on n'aurait pas besoin de maître d'hôtel. De même que les peuples sont faits pour avoir des taxes, de même les grandes familles sont faites pour avoir des maîtres d'hôtel. Celui de M. Myrtle réfléchit comme de raison qu'il était dans la nature que la race des gens riches se perpétuât à son profit. Il daigna donc regarder la voiture de voyage du haut des marches de son vestibule, sans froncer les sourcils. Il poussa l'obligeance jusqu'à demander gentiment à un de ses gens « Thomas, aidez à rentrer les bagages !» Il accompagna lui-même la mariée jusqu'au salon où l'attendait M. Myrtle. Mais on doit regarder cette démarche active comme un hommage rendu au beau sexe, dont le maître d'hôtel était un des plus ardents admirateurs, on le savait même épris des charmes d'une certaine duchesse, et non pas comme un précédent dont la famille put se targuer. M. Myrtle se promenait d'un air timide devant sa cheminée, prêt à souhaiter la bienvenue à Mme Sparkler. Sa main parut remonter jusqu'au milieu de sa manche lorsqu'il s'avança au-devant d'elle, car il mit dans sa poignée de main une telle abondance de parements d'habits que Fanny aurait pu se figurer qu'elle était reçue par un de ces mannequins populaires qui sont censés représenter Guy Fawkes. En outre, lorsqu'il approcha ses lèvres de celles de Mme Sparkler, il se saisit lui-même par les poignets et s'éloigna à reculons, bousculant les causeuses, les chaises et les tables, comme s'il eût été son propre sergent de ville, et qu'il se fût dit à lui-même « Voyons, pas de ça. Allons, je vous tiens, vous savez. Ainsi, vous ferez bien de vous laisser coffrer tranquillement. » Mme Sparkler, installée dans les appartements de réception, dans le sanctuaire le plus intime d'édredons, de soie, de perse et de toit fine, sentit que jusque-là, son triomphe était complet et qu'elle faisait un pas de plus tous les jours. La veille de son mariage, elle avait donné à la femme de chambre de Mme Myrtle, d'un air de gracieuse indifférence, en présence de sa maîtresse, un petit souvenir de rien, un bracelet, un chapeau et deux robes, tout battant neuf, qui valaient au moins quatre fois les cadeaux que Mme Myrtle avait autrefois fait à la danseuse. Elle était en ce moment installée dans l'appartement de cette dame, auquel on avait ajouté quelques embellissements, afin de le rendre plus digne d'être occupé par son hôtesse nouvelle. Tandis qu'elle s'y dorlotait, entourée de tous les accessoires de luxe que l'argent peut procurer ou que l'esprit humain peut inventer, elle voyait sa blanche poitrine qui se soulevait à l'unisson de ses pensées, rivaliser désormais avec la poitrine trop longtemps célèbre qu'elle allait éclipser et détrôner. Heureuse ? Mais oui, Fanny avait lieu d'être heureuse. Je suis sûr qu'elle ne s'écriait plus qu'elle voudrait être morte. Le courrier n'avait pas consenti à ce que M. Dorrit logeât chez un ami. Il avait préféré le conduire dans un hôtel de Brook Street, Grosvenor Square. M. Myrtle commanda sa voiture pour le lendemain de bonne heure, afin de rendre visite à M. Dorrit dès qu'il aurait déjeuné. La voiture brillait, les chevaux bien nourris reluisaient, les harnais flamboyaient et les livrées étaient riches et cossues. Un équipage somptueux et solide. Pour tout dire, une voiture digne d'un Myrtle. Les gens matinaux se retournaient dans la rue pour la regarder tandis qu'elle brûlait le pavé et disaient avec un respect qui leur coupait la respiration « Le voilà qui passe !» Et il passa jusqu'à ce que Brook Street vint l'arrêter. Alors le joyau sortit de son écrin magnifique. Car ici, ce n'était pas le joyau qui brillait par lui-même, c'était tout le contraire. Quelle commotion profonde dans le bureau de l'hôtel. Myrtle ! L'hôte, bien que ce fût un gentleman d'un caractère hautain, qui venait d'arriver en ville conduisant un attelage de deux chevaux pur sang, sortit pour l'accompagner jusqu'au haut de l'escalier. Les commis et les domestiques se cachaient dans l'embrasure des portes, dans les couloirs, aux encoignures, et flânaient par hasard, à chaque détour, afin d'apercevoir le célèbre millionnaire Myrtle. Soleil, lune, étoile, avez-vous jamais éclairé un plus grand homme ? Le millionnaire, qui avait en quelque sorte rectifié le Nouveau Testament, car sans quitter la terre, il était déjà monté dans le royaume des cieux. L'homme qui pouvait avoir qui il voulait à sa table et qui avait gagné tant d'argent. Tandis qu'il montait, une foule de gens prenait déjà position au bas de l'escalier, afin que l'ombre du célèbre capitaliste tombât sur eux lorsqu'il sortirait. C'est ainsi que l'on portait les malades sur le chemin de l'apôtre, et encore cet apôtre-là n'avait pas été reçu dans la meilleure société, comme Myrtle, ni gagné de l'argent comme lui. M. Dorrit, vêtu de sa robe de chambre et journal en main, était en train de déjeuner. Le courrier, d'une voix agitée, annonça « Monsieur Myrtle !» M. Dorrit se leva d'un bond, son cœur battait bien fort. « Monsieur Myrtle, c'est, vraiment un honneur inespéré. Permettez-moi de vous exprimer, combien j'apprécie cette, flatteuse marque d'attention. Je n'ignore pas, monsieur, que votre temps a une valeur énorme. » M. Dorrit ne put pas faire ronfler comme il aurait voulu le mot « énorme ».« Daignez, m'accorder à une heure si matinale quelques-uns de vos précieux instants, c'est, un honneur qui m'inspire une vive reconnaissance. » M. Dorrit était si reconnaissant qu'il tremblait en remerciant le grand homme. M. Myrtle prononça, de sa voix de ventriloque un peu contenue et un peu hésitante, quelques mots qui ne signifiaient rien. Il termina en disant « Je suis charmé de vous voir, monsieur. » Vous êtes bien bon, répliqua M. Dorrit, vraiment trop bon. On avait déjà avancé un siège pour l'illustre visiteur qui, après s'être assis, passait sa grosse main sur son front épuisé. J'espère que vous vous portez bien, monsieur Myrtle, ajouta M. Dorrit. Aussi bien que. Oui, je me porte aussi bien qu'à l'ordinaire, répondit le banquier. Vous devez être immensément occupé. « Assez, mais, oh non, je n'ai pas grand-chose, » dit M. Myrtle, regardant tout autour de la chambre. « Un peu de dyspepsie, » insinua M. Dorrit. « C'est possible, mais je... Oh, je vais assez bien. » On voyait à l'endroit où les lèvres de M. Myrtle se rejoignaient des traces noires comme si on y eût mis le feu à une petite traînée de poudre. Et il avait l'air d'un homme qui, avec un tempérament plus ardent, aurait eu un fort accès de fièvre ce matin-là. C'étaient ses symptômes apparents et la manière dont le banquier passait lourdement la main sur son front qui avait excité la sollicitude de M. Dorrit. « Lorsque j'ai laissé Mme Myrtle à Rome, » continua l'hôte d'un ton insinuant, « elle était, ainsi que vous le savez sans doute, la belle des belles, la reine de toutes les fêtes, le charme de la société romaine. Elle se portait à ravir lors de mon départ. Madame Myrtle passe en général pour une femme des plus attrayantes, et elle le mérite sans aucun doute, ce n'est pas moi qui dirai le contraire, » répondit M. Myrtle. « Ni vous, ni personne. » M. Myrtle fit tourner sa langue dans sa bouche fermée. Il paraissait avoir là une langue mal commode et peu flexible, s'humecta les lèvres, passa de nouveau la main sur son front, puis examina encore une fois la chambre, surtout sous les chaises. Mais, dit-il ensuite, regardant M. Dorrit en face pour la première fois, et baissant immédiatement les yeux vers les boutons du gilet de son interlocuteur, « puisque nous parlons de beauté, c'est de votre fille qu'il faudrait parler. C'est elle qui est merveilleusement belle, aussi bien faite qu'elle est jolie. Lorsque le jeune couple m'est arrivé hier soir, j'ai été vraiment surpris de voir tant de charme. » M. Dorrit fut si flatté qu'il répondit qu'il ne pouvait s'empêcher de répéter verbalement à M. Myrtle ce qu'il lui avait dit par écrit, c'est-à-dire de lui exprimer tout le plaisir que lui causait l'union de leurs deux familles. Puis il tendit la main au banquier. Celui-ci regarda un instant la main qu'on lui offrait, la mit sur la sienne, comme sur une soucoupe de vermeil ou une truelle à poisson, puis la rendit à M. Dorrit. J'ai voulu commencer ma tournée par me faire conduire chez vous, dit M. Myrtle, pour me mettre à vos ordres, dans le cas où je pourrais vous être bon à quelque chose. D'ailleurs, je voulais vous dire que j'espère bien que vous me ferez l'honneur de dîner chez moi aujourd'hui et tous les jours où vous ne serez pas engagé pendant votre séjour à Londres. M. Dorrit fut ravi de ces attentions délicates. Restez-vous longtemps parmi nous, monsieur ? Pour le moment, je n'ai pas l'intention, répondit M. Dorrit, de... dépasser une quinzaine de jours.
C'est bien peu de temps, après un si long voyage.
En effet. Mais à vrai dire, mon cher Monsieur Myrtle, je trouve que le climat d'Italie convient si bien à ma santé et à mes goûts que ma visite actuelle n'a que deux motifs. D'abord, l'honneur et le privilège dont je jouis en ce moment et que je sais apprécier. Ensuite, l'arrangement, le placement, c'est-à-dire le placement le plus avantageux possible de mes capitaux.
Eh bien, Monsieur Dorrit, répliqua Monsieur Myrtle, faisant encore tourner sa langue, si je puis vous être utile sous ce rapport, disposez de moi.
Monsieur Dorrit s'était exprimé avec plus d'hésitation que de coutume en abordant ce sujet chatouilleux, car il ne savait pas bien comment un potentat de la force de M. Myrtle prendrait la chose. Il craignait que toute allusion à un capital ou à une fortune privée ne fût qu'une misérable affaire de détail aux yeux d'un homme qui remuait l'argent à la pelle. Soulagé par l'offre affable que M. Myrtle venait de lui faire, il en profita immédiatement pour lui prodiguer ses remerciements.
« J'aurais à peine, osé, je vous assure, compter sur l'immense avantage de pouvoir ainsi mettre à profit votre aide et vos conseils. Bien que je fusse résolu, dans tous les cas, à faire comme le reste du monde civilisé et à suivre fidèlement les spéculations de M. Myrtle.
Vous savez que nous voilà presque parents, monsieur, répliqua M. Myrtle, qui examinait en même temps, avec un intérêt assez étrange, le dessin du tapis, et, par conséquent, je me mets à vos ordres.
Ah, très aimable en vérité, excessivement aimable.
Il ne serait pas facile aujourd'hui, continua M. Myrtle, pour un simple étranger d'obtenir des actions dans de bonnes affaires. Je parle de mes bonnes affaires à moi, bien entendu.
Naturellement, naturellement, fit M. Dorrit, d'un ton qui signifiait qu'en dehors de celle-là, on savait bien qu'il n'existait pas de bonnes affaires.
À moins de payer une prime très élevée, ou, comme nous disons, nous autres capitalistes, un long chiffre.
M. Dorrit était si enchanté qu'il se mit à rire.
Ha, 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 un long chiffre, très joli, ha, ha, très expressif en vérité.
Cependant, ajouta M. Myrtle, je me réserve ordinairement le droit d'exercer certaines préférences, mes amis veulent bien dire certaines faveurs, comme une récompense de mes soins et de mes peines.
Dites de votre coup d'œil hardi et de votre génie, suggéra M. Dorrit.
M. Myrtle, d'un mouvement de sa langue desséchée, sembla avaler ses qualités comme il eût fait une pilule. Puis il ajouta, « Je verrai, avec votre permission, si je ne pourrai pas exercer ce droit limité, car le monde est jaloux, et c'est ce qui fait que mon droit est limité, à votre profit. »
« Vous êtes bien bon, » répéta M. Dorrit, « vous êtes trop bon. »
Il va sans dire que dans les transactions de ce genre, la plus grande intégrité et la plus grande franchise sont de rigueur. Il doit exister une bonne foi parfaite entre les intéressés, une confiance illimitée. Autrement, les affaires deviendraient impossibles.
M. Dorrit accueillit avec faveur ces nobles sentiments.
« Je suis donc obligé de vous dire que je ne puis vous favoriser que jusqu'à un certain point. »
Très bien, jusqu'à un certain point, remarqua M. Dorrit.
Jusqu'à un certain point, et tout doit se faire carte sur table. Quant à mes conseils, c'est autre chose.
Tels qu'ils sont.
Oh, tels qu'ils sont.
M. Dorrit ne voulut pas permettre, même à M. Myrtle, de déprécier le moins du monde la valeur de ses précieux avis.
Mais, par exemple, pour mes conseils, n'existe entre moi et mes semblables aucun engagement d'honneur qui m'empêche de les donner à qui me plaît.
Et sous ce rapport, continua M. Myrtle, s'intéressant beaucoup à un tombereau de boueur qui passait sous la croisée, je serai toujours à vos ordres.
M. Dorrit remercia de nouveau.
M. Myrtle passa encore une fois la main sur son front. Calme et silence. Contemplation des boutons du gilet de M. Dorrit par son ami M. Myrtle.
Mon temps étant assez précieux, reprit alors le millionnaire, se levant tout d'un coup, comme s'il avait jusque-là attendu après ses jambes et qu'on vint les lui apporter à l'instant même, « il faut que je me dirige vers la cité. Voulez-vous que je vous mène quelque part, monsieur ? Je serai heureux de vous descendre en route ou de vous conduire plus loin. » M. Dorrit se rappela qu'il avait affaire chez son banquier. Son banquier habitait dans la cité. Tant mieux, M. Merdle le conduirait à la cité. Mais M. Dorrit ne voulait pas faire attendre M. Merdle le temps de passer sa redingote. « Si, si, M. Merdle insista. » M. Dorrit se retira donc dans la chambre voisine, se remit entre les mains de son valet et, au bout de 5 minutes, revint tout resplendissant. « Permettez-moi, monsieur, prenez mon bras, » dit alors M. Merdle. Et M. Dorrit, s'appuyant sur le bras de M. Merdle, descendit le grand escalier, aperçut les fidèles stationnés sur les marches et sentit passer sur sa personne un reflet des rayons de la gloire de ce grand homme. Puis, après cela, quel honneur encore ! La promenade dans la voiture de M. Merdle jusqu'à la cité. Les gens qui s'arrêtaient pour le voir et les têtes grises qui se découvraient à la hâte. Les courbettes et les saluts sans nombre à l'adresse de ce merveilleux mortel. Jamais on ne vit servilité pareille. Non, par le ciel, jamais. Ne me parlez pas de vos flatteurs des dimanches. Dans les cathédrales de Westminster et de Saint-Paul, à la fois, voilà-t-il pas grand-chose en comparaison. Ce fut un rêve délicieux pour M. Dorrit de se trouver placé dans ce char de triomphe qui poursuivit sa course magnifique vers ce but bien approprié à la circonstance, Lombard Street, la rue d'or des marchands d'argent. Arrivé là, M. Merdle voulut à toute force continuer sa route à pied et laisser son pauvre équipage à la disposition de M. Dorrit. Le rêve devint donc de plus en plus enivrant lorsqu'il sortit de la banque seul et que les passants, à défaut de M. Merdle, le regardèrent, lui, et qu'il se figurait entendre, en éclaboussant les passants, les piétons s'écriaient « Il faut que ce soit là un grand personnage pour être l'ami de M. Merdle. » Ce jour-là, bien que ce fût un dîner improvisé, M. Dorrit rencontra une brillante société, composée de gens qui n'étaient pas formés de la même argile que le commun des mortels, mais d'une toute autre substance de première qualité, dont on ignore encore le nom, qui vint bénir le mariage de la fille de M. Dorrit. Et ce jour-là, la fille de M. Dorrit commença, pour tout de bon, à rivaliser avec cette femme qui n'était pas présente. Elle commença si bien que M. Dorrit aurait presque juré, au besoin, que Mme Sparkler avait toujours été bercée sur les genoux d'une duchesse et qu'elle n'avait seulement jamais entendu prononcer un mot aussi baroque que celui de « maréchaussée ». Le lendemain et le surlendemain, nouveau dîner orné de convives de plus en plus distingués. Les cartes de visite pleuvaient chez M. Dorrit comme les flocons de neige dans un orage de théâtre. L'honneur du barreau, la crème de l'épiscopat, les hauts fonctionnaires de la trésorerie, les membres du cœur parlementaire, tout le monde en un mot, voulut faire et cultiver la connaissance de M. Dorrit en sa qualité de parent et d'ami de l'illustre Merdle. Aux nombreux bureaux de M. Merdle dans la cité, lorsque M. Dorrit s'y présentait pour affaires, et il s'y présentait assez souvent, car ses affaires allaient bon train, le nom de Dorrit servait de passeport pour arriver auprès du grand financier. De sorte que le rêve devenait plus enivrant d'heure en heure, à mesure que M. Dorrit comprenait mieux tout le chemin que cette alliance lui avait fait faire dans le monde. Il y avait un revers au rêve doré de M. Dorrit. C'était l'allure du maître d'hôtel qui le chiffonnait. Ce magnifique serviteur, en surveillant officiellement les dîners, contemplait M. Dorrit d'une façon que celui-ci trouvait suspecte. Lorsque M. Dorrit traversait l'antichambre ou montait l'escalier, l'autre le poursuivait d'un regard fixe et terne qui n'était pas de son goût. Chaque fois que M. Dorrit portait son verre à ses lèvres, il apercevait à travers le cristal le maître d'hôtel qui le contemplait d'un air froid et lugubre. Il commença à craindre que ce vassal n'eût été lié avec quelques détenus et n'eût même été présenté dans le temps à leur doyen. Il examina le maître d'hôtel aussi attentivement qu'il est permis d'examiner un pareil homme, mais il ne se rappela pas l'avoir jamais vu ailleurs. Enfin, il se sentit tout disposé à croire que cet homme n'avait pas la bosse du respect,
qu'il lui manquait le sens moral de la servilité. Mais cette pensée ne lui apporta aucun soulagement, car enfin, se disait-il, que ce soit ce que ça voudra, il n'en est pas moins vrai qu'il me regarde d'un air dédaigneux. M. Dorrit avait tort. Son ennemi ne s'occupait de regarder que l'argenterie et les autres ornements du service. Mais c'est égal, M. Dorrit avait son idée fixe. Et comment faire? Il ne fallait pas songer à lui insinuer que cette persistance lui était désagréable, ni à lui demander ce que cela signifiait. C'eût été aussi trop hardi, car cet officier de bouche était d'une sévérité terrible avec ses maîtres et leurs invités, et il ne souffrait jamais qu'on prît en l'accostant la moindre liberté à son égard. Chapitre 17. Disparition. Le délai fixé par M. Dorrit pour son séjour à Londres n'avait plus que 2 jours à courir, et ce gentleman allait s'habiller pour subir une nouvelle inspection du maître d'hôtel de M. Merton, car les victimes de ce tyran impitoyable ne manquaient pas de faire en son honneur une toilette spéciale, lorsqu'un des garçons de l'hôtel vint lui présenter une carte de visite. M. Dorrit, prenant cette carte, il lut le nom de Madame Finching. Le garçon attendait ses ordres dans une attitude respectueuse. « Dites donc, garçon, m'expliquerez-vous pourquoi vous m'avez apporté cette carte ridicule? Ce nom m'est parfaitement inconnu. » « Finching, continua M. Dorrit, qui se vengeait du maître d'hôtel sur le dos de l'innocent domestique. « Ah, qu'est-ce que vous venez me chanter avec votre Finching ?» Le garçon n'avait pas envie de chanter du tout, car il recula devant le regard sévère de M. Dorrit en répondant « Une dame, monsieur. Sachez que je ne connais pas de dame de ce nom. Emportez cette carte, je ne connais pas de Finching, d'aucun sexe. » « Pardon, monsieur, la dame a dit qu'elle savait que son nom vous était inconnu. Mais elle a prié d'ajouter, monsieur, qu'elle avait eu l'honneur de connaître autrefois Mademoiselle Dorrit, Mademoiselle Amy Dorrit. » M. Dorrit fronça les sourcils et répondit après un moment d'hésitation. « Dites à Madame Finching. » Il appuya sur ce nom plébéien, comme pour indiquer que le garçon en était seul responsable, « qu'elle peut monter. » Il avait réfléchi dans l'intervalle que s'il ne recevait pas cette dame, elle pourrait laisser en bas quelque message inopportun ou faire quelque allusion peu agréable à la position sociale qu'il occupait naguère. De là cette concession, de là aussi l'apparition de Madame Finching, précédée du garçon. « Je n'ai pas le plaisir, » dit M. Dorrit, qui se tint debout la carte à la main, d'un ton qui indiquait clairement que dans tous les cas, ce plaisir n'aurait pas été de son goût, « de vous connaître, soit de nom, soit personnellement. Avancez donc une chaise, monsieur. » Le serviteur responsable fit un soubresaut et obéit, puis il s'éloigna sur la pointe des pieds. Flora, levant son voile avec une trépidation toute juvénile, se présenta à M. Dorrit. Au même instant, il se répandit dans la chambre une étrange combinaison de parfums, comme si on avait versé par erreur du rhum dans un flacon d'eau de lavande ou de l'eau de lavande dans une bouteille de rhum. Je demande 1 million de pardons à M. Dorrit, et ce n'est pas encore assez pour le dérangement que je lui cause, car je sais que c'est fort inconvenant de la part d'une dame de se présenter seule. Mais j'ai pensé que, malgré tout, cela valait encore mieux, bien que l'attente de M. Finching m'eût volontiers accompagnée, et, en sa qualité de femme d'une énergie remarquable, elle aurait sans doute fait sensation sur une personne aussi versée dans la connaissance du monde que vous devez l'être après tant de vicissitudes. Car M. Finching lui-même disait souvent que, bien qu'il eût été élevé dans un pensionnat de Blackheath, où l'on payait jusqu'à 80 guinées par an, ce qui est beaucoup pour des parents dans le commerce, surtout lorsqu'on garde le couvert au départ des élèves, si je fais cette dernière remarque, c'est moins pour la valeur de ces objets que pour constater la ladrerie de la chose. Il avait plus appris dans une année, comme commis voyageur pour le placement d'un article dont personne ne voulait entendre parler, et moins encore faire l'emplette, c'était avant qu'il entrât dans la partie des vins, que pendant les 6 ans qu'il avait passé dans une institution dirigée par un bachelier d'Oxford. Mais, à propos de bachelier, pourquoi donc les célibataires
feraient-ils de meilleurs maîtres que les hommes mariés? C'est ce que je n'ai jamais bien compris. Mais, veuillez m'excuser, il ne s'agit pas de ça. »
M. Dorrit, immobile de stupeur, ressemblait à une statue de la mystification.
« Je dois avouer que je n'ai pas la prétention de vous connaître, » poursuivit Flora. Mais ayant connu la chère petite, qui, vu le changement de circonstances, excusez cette allusion que vous pourriez croire indiscrète, rien n'est plus loin de ma pensée, car Dieu sait qu'une demi-couronne par jour, c'était bien peu pour une ouvrière aussi habile, et quant à voir là quelque chose de dégradant, bien au contraire, toute peine mérite salaire, et plût à Dieu que l'ouvrier l'obtint plus avantageux, avec une nourriture animale plus abondante et moins de rhumatisme dans le dos et les jambes.
« Madame, » dit M. Dorrit, respirant avec effort, tandis que la veuve de M. Finching s'arrêtait pour reprendre haleine, « Madame, » répéta M. Dorrit, le teint très animé, « si je dois comprendre que vous faites allusion à...
ah, aux antécédents de... une de mes filles, impliquant... ah, une compensation journalière, je m'empresse, madame, de vous faire remarquer que ce...
ah, fait...
admettant que ce soit un
« ah, fait »
n'est jamais arrivé à ma connaissance.
Je ne l'aurais pas souffert.
Ah, jamais, jamais !»
Inutile d'appuyer là-dessus, reprit Flora, et pour rien au monde je n'en aurais parlé, si ce n'est parce que je supposais que cela me servirait de lettre de recommandation à vos yeux, faute de pouvoir m'en procurer une autre.
Mais quant à être un fait, il ne peut y avoir le moindre doute à cet égard, vous pouvez être tranquille. La robe que je porte sur moi en est la preuve, et elle est faite à ravir, bien que je ne puisse nier qu'elle ferait encore plus d'effet sur une taille plus svelte que la mienne, qui est beaucoup trop forte. Mais je ne sais plus à quel sein me vouer pour la dégrossir. Pardonnez-moi, je m'écarte encore du sujet de ma visite. »
M. Dorrit se recula vers sa chaise d'un air pétrifié et s'assit, tandis que Flora lui lançait un coup d'œil attendrissant et jouait avec son parasol.
La chère petite, reprit la veuve, était partie toute pâle et glacée de ma maison, ou du moins de la maison de mon père, car, bien qu'elle ne lui appartienne pas, il a un long bail avec un loyer purement nominal. Le matin où Arthur, folle habitude de nos jeunes années, il serait beaucoup plus convenable, vu les circonstances actuelles, de dire « Monsieur Clennam », surtout en m'adressant à un étranger d'un rang élevé, lui communiqua l'heureuse nouvelle qu'il tenait d'une personne du nom de Banks. C'est là ce qui m'a encouragé à venir. En entendant ces deux noms, M. Dorrit fronça les sourcils, ouvrit de grands yeux, fronça de nouveau les sourcils, porta à ses lèvres ses doigts indécis, comme il avait coutume de le faire dans le temps jadis, et dit « Faites-moi le plaisir de...
ah, m'apprendre... « ce que vous désirez de moi, madame. »«
Monsieur Dorrit, » répondit Flora, « vous êtes bien aimable de m'accorder cette permission. Il est très naturel, d'ailleurs, que vous vous montriez aimable, car, bien que vous soyez un peu plus roide, la ressemblance me frappe. Mademoiselle Dorrit a la figure plus pleine, naturellement, mais néanmoins, il y a une grande ressemblance. L'objet de la visite que je prends la liberté de vous faire vient de moi seul. » Je n'ai consulté âme qui vive, Arthur moins que personne, pardon encore, Dorrit et Clennam. Non, je ne sais plus ce que je dis, c'est Clennam tout seul qu'il faut dire. Car si je pouvais tirer d'inquiétude un ami qui se rattache par une chaîne dorée à ce temps heureux où tout m'apparaissait à travers un brouillard couleur de rose, cela me ferait plus de plaisir que la rançon d'un roi. Non que j'aie la moindre idée de la valeur pécuniaire d'un monarque. Mais je veux dire que je donnerai volontiers tout ce que j'ai, et même davantage, pour arriver à ce résultat. »
M. Dorrit, sans faire beaucoup d'attention au bon sentiment qui dictait à Flora ses dernières paroles, s'écria
« Que désirez-vous de moi, madame ?»«
Ce n'est pas très probable, je le sais, » répliqua Flora. « Mais c'est possible. Et comme c'est possible, dès que j'ai eu le plaisir d'apprendre par les journaux que vous étiez revenu d'Italie, et que vous ne tarderiez guère à y retourner, je me suis décidé à cette tentative. Car vous pourriez bien le rencontrer ou entendre parler de lui, ce qui serait un grand bonheur et un soulagement pour tout le monde.
« Permettez-moi de vous demander, madame, » répliqua M. Dorrit, dont ce bavardage commençait à embrouiller les idées. « Ah, de qui ? » répéta-t-il en élevant la voix avec une intonation désespérée. « Vous voulez parler en ce moment ?»«
De l'étranger, récemment arrivé d'Italie, et qui a disparu dans la cité, ainsi que vous l'avez sans doute lu dans les journaux.
Et sans nous en rapporter aux informations recueillies par une personne du nom de Pinks, qui nous répète toutes les méchancetés atroces que débitent dans le quartier des gens qui jugent sans doute les autres d'après eux-mêmes, vous comprenez l'inquiétude et l'indignation d'Arthur. Je ne puis m'en empêcher. Doris et Clennam. »
Heureusement pour M. Dorrit, car autrement, on ne serait jamais arrivé à une solution intelligible de ce mystère. Il n'avait pas entendu un mot, il n'avait pas lu une ligne à propos de l'événement en question. Cette ignorance engagea Mme Finching, après bien des excuses de la difficulté qu'elle avait à retrouver sa poche dans les plis de sa jupe, à lui présenter enfin une affiche qui annonçait qu'un gentleman étranger du nom de Blandois, arrivé tout récemment de Venise, avait tout à coup disparu telle nuit dans telle partie de la cité, qu'on savait qu'il était entré à telle heure dans une telle maison, que les habitants de la dite maison affirmaient qu'il en était sorti à minuit moins quelques minutes, mais qu'on ne l'avait jamais revu depuis.
M. Dorrit lut attentivement ces détails, ainsi que le signalement de l'étranger qui avait si mystérieusement disparu.
« Blandois ! » s'écria M. Dorrit. « Venise ! Et ce signalement ! Je connais ce gentleman. Il a été reçu chez moi. C'est l'ami intime d'un gentleman de bonne famille un peu gêné que je... protège.
Alors, mon humble requête sera d'autant plus pressante. Lorsque vous retournerez en Italie, je vous prie d'être assez bon pour chercher cet étranger tout le long des routes et des chemins de traverse. De demander de ses nouvelles dans les hôtels, auberges, vignobles, orangeries, volcans ou autres lieux. Car il faut bien qu'il soit quelque part. Pourquoi donc ne se montre-t-il pas? Pourquoi ne vient-il pas dire « me voilà » pour disculper les gens?
« Puis-je savoir, madame ?» demanda M. Dorrit, consultant de nouveau l'affiche, « ce que c'est que Clennam et compagnie ?»«
Ah, dont on parle, à propos de la maison où l'on a vu M. Blandois.
Qu'est-ce que Clennam et compagnie ?
S'agit-il de l'individu avec lequel j'ai eu autrefois des relations passagères et auquel, si je ne me trompe, vous avez fait allusion tantôt ?
Ah, est-ce lui dont il s'agit ?»
« Il s'agit d'une toute autre personne, » répondit Flora, « d'une personne infirme qui remplace ses jambes par des roulettes. La plus lugubre des femmes, bien qu'elle soit mère. »
« Clennam et compagnie est... une mère ?» s'écria M. Dorrit.
« Et un vieux bonhomme tout tortu par-dessus le marché, » ajouta Mme Finching. M. Dorrit parut sur le point de perdre la tête en écoutant ces étranges détails. Et sa situation morale ne s'améliora nullement lorsque Flora se lança dans une rapide analyse de la cravate de M. Flintwinch et décrivit le personnage, sans tracer la moindre ligne de démarcation entre lui et Mme Clennam, comme une vieille vis rouillée chaussée de guêtres. Cet amalgame d'hommes et de femmes, de jambes absentes, de roulettes, de vis rouillées, de taciturnité et de guêtres stupéfia tellement M. Dorrit qu'elle faisait vraiment pitié à voir.
« Mais je ne vous retiendrai pas un instant de plus, » reprit Flora, sur qui le triste état de M. Dorrit produisit son effet, bien qu'elle n'eût pas la moindre idée qu'elle y fût pour quelque chose. « Si vous aviez la bonté de me donner votre parole de gentilhomme, que le long de la route d'Italie et en Italie même, vous chercherez ce M. Blandois dans tous les coins, et que, dès que vous l'aurez trouvé, vous le forcerez à venir ici disculper tout le monde. »
M. Dorrit, un peu revenu de sa première surprise, put répondre sans trop de trouble qu'il regarderait comme un devoir de se livrer à ses recherches. Flora, enchantée du succès de son ambassade, se leva pour prendre congé.
« Avec 1 000 000 de remerciements, dit-elle, je ne vous prierai pas de dire bien des choses affectueuses à la chère petite, car ce message ne serait peut-être pas très bien accueilli. D'ailleurs, depuis la métamorphose, il est clair qu'il ne peut y avoir de chère petite. Pourquoi donc alors me permettrais-je une pareille familiarité? Néanmoins, la tante de M. Finching et moi, nous lui souhaitons toute espèce de bonheur, et nous ne la regardons pas du tout, comme notre obligée,
bien au contraire, car elle a bien tenu tous ses engagements. On ne pourrait pas en dire autant de la plupart des gens, sans compter qu'elle a fait tout son ouvrage aussi bien qu'il était possible de le faire. Moi-même, je suis du nombre des gens qui ne font pas tout ce qu'ils promettent, car j'avais toujours dit, depuis que j'ai commencé à me remettre du coup que m'a porté la mort de M. Finching, que je voulais apprendre à jouer de l'orgue dont je raffole. Mais je rougis d'avouer que je ne suis pas allé jusqu'à savoir seulement mes notes sur cet instrument. Bonsoir. Lorsque M. Dorrit, après avoir reconduit sa visiteuse jusqu'à la porte, eut le temps de rassembler ses idées, il trouva que l'entrevue avait réveillé chez lui des souvenirs qu'il croyait effacés et qui jureraient à la table de M. Merdle. Il écrivit donc au banquier un billet laconique, s'excusant de ne pouvoir dîner avec lui ce jour-là, et se fit servir son repas dans son appartement. Il avait encore un autre motif pour agir ainsi. Il avait résolu de quitter Londres dans 2 jours, et comme tout ce temps était pris par des invitations acceptées, et qu'il avait fixé l'heure de son départ, il crut que son importance l'obligeait à approfondir en personne l'affaire Blandois, afin d'être à même de faire part à M. Henry Gowan du résultat de ses investigations personnelles sur le compte de son ami. En attendant, il se décida à profiter de ce qu'il avait cette soirée libre pour se rendre chez Clenham et compagnie, dont l'affiche indiquait l'adresse, examiner les localités et faire lui-même 1 ou 2 questions. Après avoir dîné aussi simplement que lui permirent le cuisinier de l'hôtel et le courrier, après avoir fait ensuite un léger somme au coin du feu, afin de mieux se remettre de la visite de Madame Finching, il partit seul dans un cabriolet de louage. La grave horloge de Saint-Paul sonnait 9 heures, comme il passait sous l'arcade ténébreuse de Temple Bar, qui n'était pas alors dans l'état humiliant et dégénéré où nous le voyons aujourd'hui. Tandis qu'il se rapprochait du lieu de sa destination, par une enfilade de rues de traverse et de ruelles du bord de l'eau, ce quartier de Londres lui parut plus laid à une pareille heure qu'il n'aurait pu se l'imaginer. Il s'était écoulé bien des années depuis qu'il l'avait traversé. D'ailleurs, il ne l'avait jamais beaucoup connu, et il lui trouva un aspect mystérieux et lugubre. Son imagination en fut si vivement affectée que lorsque le cocher, après avoir bien des fois demandé le chemin, s'arrêta en disant qu'il croyait bien que c'était là la maison, M. Dorrit hésita un instant, la main sur la portière, presque effrayé de l'air sinistre de la demeure de Madame Clenham. À vrai dire, ce soir-là, la vieille maison n'avait jamais été plus sombre. On apercevait sur le mur, de chaque côté de la porte cochère, l'affiche que M. Dorrit avait lue, et tandis que la flamme des réverbères vacillait au vent du soir, on voyait passer sur les imprimés des ombres qui ressemblaient assez à des doigts qui auraient suivi les lignes. Il était évident que la police avait établi une surveillance particulière en cet endroit, car pendant que M. Dorrit hésitait, un homme s'avança vers lui de l'autre côté de la rue, tandis qu'un second, caché jusque-là dans l'ombre, passait devant le visiteur en s'éloignant dans le sens opposé, tous deux lui jetant un rapide coup d'œil et tous deux s'arrêtant ensuite à une certaine distance. Comme il n'y avait qu'une seule maison dans la cour, il n'y avait pas moyen de se tromper. M. Dorrit gravit donc les marches et frappa. Une faible lumière éclairait 2 fenêtres du premier étage. La porte renvoya un écho lugubre et vide, comme si la maison eût été inhabitée. Mais il n'en était rien, et presque aussitôt, on vit approcher une lumière et on entendit un pas retentir sur les dalles du vestibule. Lorsque le pas et la lumière furent arrivés ensemble à l'entrée, une chaîne grinça et une vieille femme, la tête cachée dans son tablier, se montra à la porte entrebâillée. « Qui est là ? » demanda-t-elle. M. Dorrit, que cette apparition étonna beaucoup, répliqua qu'il arrivait d'Italie et qu'il désirait quelques renseignements sur l'étranger qui avait disparu et qu'il connaissait. « Hé ! » s'écria la vieille d'une voix fêlée. « Jérémie !» Sur ce, un vieillard apparut à son tour, que M. Dorrit crut reconnaître, à ses guêtres, pour la vis rouillée mentionnée par Flora. La femme avait une peur évidente du vieillard desséché, car elle enleva prestement son tablier et montra un visage tout pâle d'effroi au moment où il s'avança. « Ouvrez donc, imbécile !» dit le vieillard, « et laissez entrer monsieur !»
Monsieur Dorrit, après avoir jeté par prudence un coup d'œil à son cocher de cabriolet, entra dans le vestibule mal éclairé. « Eh bien, monsieur, commença Jérémy, vous pouvez maintenant me faire autant de questions qu'il vous plaira. Il n'y a pas de secret chez nous, monsieur. » Avant qu'il eût pu recevoir une réponse, une voix ferme et décidée, une voix de femme, pourtant, cria d'en haut « Qu'est-ce, Jérémy ?»« Qui c'est ?» répéta Jérémy. « Encore une demande de renseignement. Un gentleman qui arrive d'Italie. Faites-le monter !» Monsieur Flintwinch grommela comme si c'était, selon lui, parfaitement inutile. Mais, se retournant vers Monsieur Dorrit, il lui dit « Madame Clennam, elle n'en fait qu'à sa tête. Je vais vous montrer le chemin. » Il monta alors le sombre escalier, suivi de Monsieur Dorrit, qui, en se retournant, aperçut derrière lui la vieille femme, avec son tablier encore relevé par-dessus sa tête, comme un spectre. Madame Clennam avait ses livres à côté d'elle, sur sa petite table. « Oh !» fit-elle brusquement, l'œil fixé sur le visiteur. « Vous arrivez d'Italie, monsieur ? Eh bien !» Monsieur Dorrit ne sut pas trouver pour le moment une réponse plus claire que « Hein ? Eh bien ! Où est cet homme qui a disparu ? J'espère que vous nous apportez de ses nouvelles. »« Au contraire, je viens vous demander des renseignements. Malheureusement pour moi, je n'en ai pas à vous donner. Jérémy, montrez-lui l'avis imprimé. Donnez-lui en plusieurs qu'il pourra emporter. Éclairez-le pour qu'il le lise. » Monsieur Flintwinch obéit à ses ordres, et Monsieur Dorrit lut l'avis d'un bout à l'autre, comme s'il ne le connaissait pas, pour se donner le temps de recouvrer son sang-froid, que l'aspect de la maison et de ce qui s'y trouvait avait un peu troublé. Tandis que ses yeux étaient fixés sur le papier, il sentit que les regards de Monsieur Flintwinch et de Madame Clennam devait être fixé sur lui, et lorsqu'il releva la tête, il reconnut que ce n'était pas une idée fantastique. « Maintenant, monsieur, dit Madame Clennam, vous en savez autant que nous. Monsieur Blandois est donc votre ami ?»« Non, une simple connaissance, répondit Monsieur Dorrit. « Il ne vous a pas chargé d'une commission, par hasard ?»« Moi ? Ah, certes non. » Le regard scrutateur de Madame Clennam s'abaissa peu à peu jusqu'au plancher, après avoir, en chemin, échangé un coup d'œil avec M. Flintwinch. M. Dorrit, tout décontenancé, de voir les rôles renversés et d'être obligé de répondre à des questions quand il était venu pour en faire, voulut ramener les choses à leur état normal. « Je suis un homme du monde, habitant pour le moment l'Italie avec ma famille, mes gens et une suite assez nombreuse. » Me trouvant par hasard à Londres pour des affaires qui concernent mes propriétés, et ayant appris cette étrange disparition, j'ai éprouvé le désir bien naturel de prendre des informations à la source même, car j'ai rencontré en Italie un gentleman que je compte y retrouver à mon retour, lequel a fréquenté assez intimement le sieur Blandois, M. Henry Gowan. Ce nom ne vous est peut-être pas inconnu. C'est la première fois que je l'entends, dit Madame Clennam. Et Jérémy répéta comme un écho. Comme je désire, me trouver à même de lui faire un récit clair et net, reprit Monsieur Dorrit, oserais-je vous adresser quelque chose comme 3 questions ? 30, si vous voulez. Y a-t-il longtemps que vous connaissez Monsieur Blantois ? Pas 2 mois. Monsieur Flintwinch, que voilà, en consultant ses livres, vous dira quand il nous a été recommandé par un correspondant de Paris. Si ce renseignement peut vous satisfaire, ajouta Madame Clennam. Pour nous, cela ne nous a pas servi à grand-chose. Vous a-t-il fait de nombreuses visites ? Non, il n'est venu que 2 fois. 1 fois avant et... L'autre fois, souffla M. Flintwinch. Et l'autre fois. Puis-je vous demander, madame, continua M. Dorrit, qui, à mesure qu'il retrouvait son sang-froid, commençait à se figurer qu'il représentait une espèce de commissaire de police d'un ordre supérieur, « Puis-je vous demander, pour la plus grande satisfaction du gentleman que j'ai l'honneur de patronner ou de protéger, disons plutôt de connaître, si le sieur Blantois est venu ici pour affaire à la date indiquée sur cette affiche ?»«
pour ce qu'il appelait une affaire. Pardon, et cette affaire était-elle de nature à pouvoir être communiquée? Non. Cette réponse laconique était évidemment une barrière infranchissable. On nous a déjà adressé cette question, continua Madame Clennam, et nous avons toujours répondu non. Nous ne tenons pas à ébruiter nos transactions par toute la ville, quelque peu importante qu'elle puisse être. Nous répondons non. Je voulais savoir, par exemple, s'il n'aurait pas emporté de l'argent sur lui, demanda M. Dorrit. Pas d'argent à nous, monsieur. Il n'a rien reçu ici. Je présume, remarqua M. Dorrit, dont le regard allait de Mme Clennam à M. Flintwinch, puis de M. Flintwinch à Mme Clennam, que vous ne pouvez pas vous rendre compte de ce mystère. Et pourquoi présumez-vous cela? Répondit Mme Clennam. Déconcertée par cette question, faite d'un ton froid et sec, M. Dorrit ne put expliquer le motif de cette supposition. « Je m'explique très bien ce mystère, monsieur, » poursuivit la dame après un silence embarrassé de M. Dorrit, « car je suis persuadé que le sieur Plandois est en voyage ou qu'il se cache. »« Lui connaissez-vous? Ah, quelque raison pour se cacher ?»« Non. » Ce non, aussi absolu que le premier, éleva une nouvelle barrière. Vous m'avez demandé si je ne me rendais pas compte de la disparition de cet homme, lui rappela Mme Clennam avec beaucoup de roideur, et non pas si je pouvais vous en rendre compte à vous, monsieur. Il me semble que je ne suis pas plus tenu de répondre à une pareille question que vous n'avez le droit de me l'adresser. M. Dorrit s'excusa en s'inclinant. Comme il se levait et s'apprêtait à dire qu'il n'avait plus rien à demander, il ne put s'empêcher de remarquer le regard que Mme Clennam fixait sur le plancher d'un air d'attente résolu, et la même expression reflétée par les traits de Jérémie, qui, debout auprès du fauteuil à roulettes, les yeux également fixés par terre, se caressait le menton de la main droite. Au même instant, Madame Jérémie, la femme au tablier, cela va sans dire, laissa tomber le chandelier qu'elle tenait et s'écria « Là, Dieu du ciel, encore, écoute, Jérémie, là !» Le bruit, s'il y en avait, était si léger qu'il fallait que Madame Jérémie eût toujours l'oreille au guet. M. Dorrit se figura néanmoins entendre un son presque imperceptible, assez semblable au bruit que font des feuilles sèches en tombant. La terreur de la vieille femme parut, pendant une ou deux minutes, avoir gagné tout le monde, et ils se mirent à écouter. Jérémie fut le premier à se remuer. « Ma vieille, » dit-il, se rapprochant d'elle en marchant de côté, les poings fermés, et les coudes tremblant d'impatience de secouer la malheureuse Madame Jérémie, nous recommençons donc nos vieilles plaisanteries. Vous allez vous remettre à faire la somnambule, à vous promener tout éveillé, et répéter vos tours? Allons, je vois bien qu'il vous faut une médecine. Lorsque j'aurai reconduit monsieur, je vous en ferai avaler une dose, ma vieille. Une dose qui vous fera un bien, voyez-vous. Cette promesse ne parut pas procurer à Madame Jérémie un soulagement immédiat. Mais M. Flintwinch, sans autre allusion à sa médecine réconfortante, prit un chandelier sur la table de Mme Clennam et dit « Eh bien, monsieur, voulez-vous que je vous éclaire jusqu'en bas ?» M. Dorrit remercia et descendit. M. Flintwinch ferma la porte derrière lui et tira les verrous sans perdre un moment. Le visiteur, en sortant, eut à subir une seconde inspection de la part des deux hommes qu'il avait déjà examinés et qui passèrent devant lui comme ils avaient fait la première fois. Puis il monta dans son cabriolet et se fit reconduire chez lui. À peu de distance de là, le cocher s'arrêta pour lui dire que les deux hommes en question l'avaient sommé de donner son nom, son numéro et son adresse, ainsi que l'adresse où il avait pris M. Dorrit, l'heure à laquelle on l'avait envoyé chercher et le chemin qu'il avait suivi. Cette nouvelle ne contribua pas à diminuer l'impression fiévreuse que cette aventure avait produite sur l'esprit de M. Dorrit, tandis qu'il reprenait sa place au coin du feu, ni même lorsqu'il se fut couché. Pendant toute la nuit, il vit deux agents de police qui attendaient résolument. Il entendit la femme qui se cachait la tête sous son tablier s'effrayer d'un bruit imaginaire, et découvrit le cadavre de l'introuvable Plandois, tantôt dans une cave, tantôt caché derrière un mur de briques, encore tout frais. Chapitre 18. Châteaux en Espagne.
ni l'heure ni la grandeur ne sont exempts de soucis. La satisfaction qu'éprouvait M. Dorrit en songeant qu'il n'avait pas été obligé de dire son nom à Clennam et compagnie, ni de faire aucune allusion à ses rapports antérieurs avec un intrus de ce nom, n'avait pas tardé à disparaître pour faire place à une lutte intérieure à laquelle il fut en proie. Il s'agissait de savoir si, en revenant, il passerait ou non devant la prison de la Maréchaussée pour jeter un dernier coup d'œil sur la grille qu'il connaissait si bien. Il résolut enfin de n'en rien faire, et surprit le cocher par la férocité avec laquelle il lui défendit de prendre, comme il en avait exprimé le désir, le pont de Londres pour revenir passer la rivière au pont de Waterloo, itinéraire qui aurait amené l'ex-doyen tout près de son ancien domicile. Malgré tout, le conflit qui s'était élevé dans ses pensées à cette occasion lui avait, je ne sais pourquoi, laissé l'esprit mécontent. Le lendemain, même à la table de M. Merdle, il était tellement hors de lui qu'il continuait de tourner et de retourner encore dans son esprit cette question, à présent sans objet, avec une persévérance singulièrement déplacée en si haut lieu. Il devenait tout rouge en songeant à l'opinion que le maître d'hôtel aurait de lui si cet illustre personnage pouvait sonder la pensée de son convive avec son œil de plomb. Le banquet d'adieu fut splendide et couronna dignement la visite de M. Dorrit. Fanny ajoutait au charme de sa jeunesse et de sa beauté autant d'aplomb que si elle eût été mariée depuis 20 ans. Le père sentit qu'il pouvait en toute sécurité permettre à Mme Sparkler de voyager sans guide sur le chemin du grand monde, et il regretta, mais sans se décourager dans son précieux patronage, et sans oublier les qualités modestes de son enfant favorite, que son autre fille ne ressemblât pas davantage à l'aînée. « Ma chère, dit-il à celle-ci en lui faisant ses adieux, la famille compte sur vous. Ah, pour soutenir sa dignité et, maintenir sa position. Je suis convaincu que vous ne tromperez pas son espoir. » « Non, papa, répliqua Fanny, je crois que vous avez bien raison de compter sur moi. Embrassez notre cher aimé pour moi, et dites-lui que je lui écrirai bientôt. » « N'avez-vous rien à dire à... une autre personne ?» demanda M. Dorrit d'un ton insinuant. « Papa, répondit Fanny, devant qui l'image de Madame Générale se dressa tout à coup, non, je vous suis bien obligé. Merci, cher papa. Si j'avais une autre commission à vous donner, il serait possible qu'elle ne vous fût pas agréable. » Les adieux se firent dans un salon extérieur, où M. Sparkler attendait avec soumission le moment de donner une poignée de main à son beau-père. Lorsque ce jeune gentleman fut admis à l'honneur de prendre congé du voyageur, M. Merdle se glissa après lui avec si peu de bras dans ses manches qu'on aurait pu le prendre pour le frère jumeau de la célèbre Mademoiselle Biffin, et insista pour reconduire M. Dorrit jusqu'au bas de l'escalier. Malgré ses protestations, en effet, M. Dorrit fut reconduit jusqu'à la porte d'entrée par cet homme distingué, qui, selon les propres termes de son hôte au départ, lorsqu'il lui serra une dernière fois la main, l'avait vraiment comblé d'attention et de service pendant toute la durée de son mémorable séjour. Ce fut ainsi qu'ils se quittèrent, M. Dorrit montant en voiture, la poitrine gonflée d'orgueil, enchanté que le courrier qui de son côté était descendu faire ses adieux dans les régions inférieures, fut témoin de la grandeur de ce départ. La grandeur de son départ l'enivrait encore lorsqu'il regagna l'hôtel. Le courrier et une demi-douzaine de valets se précipitèrent à la portière pour le recevoir. Et déjà il traversait l'antichambre d'un air magnifique et serein, lorsqu'un spectacle inattendu le frappa tout à coup de mutisme et de stupeur. John Chivery, revêtu de sa toilette la plus resplendissante, son grand chapeau sous le bras, ne sachant quelle contenance faire comme le veut la mode, avec sa canne à bec d'ivoire et un paquet de cigares à la main. « Eh bien, jeune homme, dit le concierge de l'hôtel, voici la personne que vous demandez. Ce jeune homme a voulu attendre à toute force, monsieur, disant que vous seriez bien aise de le voir. » M. Dorrit lança au jeune homme un regard furibond, faillit étouffer de colère, et lui dit d'un ton doucereux, « Ah, John, mais oui, c'est le jeune John, si je ne me trompe, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur, répondit le jeune John. « Je ne me trompais pas, ajouta M. Dorrit. Ce brave garçon peut monter. s'adressant aux gens de l'hôtel et se dirigeant vers l'escalier. « Oui, oui, il peut monter. Que le petit John me suive. Je lui parlerai en haut. » Le petit John le suivit, souriant et flatté. On arriva à l'appartement de M. Dorrit. On alluma les bougies. Les domestiques se retirèrent. « Ah ça, monsieur !» s'écria M. Dorrit, se retournant soudain et saisissant le pauvre John au collet, dès qu'il se trouva seul avec lui, « me direz-vous ce que cela signifie ?» La surprise et l'horreur qu'exprima la physionomie de l'infortuné visiteur, il s'attendait au contraire à se voir embrasser, furent telles que M. Dorrit retira sa main et se contenta de regarder le coupable d'un air irrité. « Comment osez-vous venir ici ? » demanda-t-il. « Comment avez-vous l'audace de vous présenter chez moi ? Comment osez-vous m'insulter ainsi ?»«
Vous insulter, moi ?» s'écria John. « Oh !»«
Oui, monsieur, m'insulter. Votre présence chez moi est un affront, une impertinence, une audace sans nom. On n'a pas besoin de vous ici. Qui vous a envoyé à mon hôtel ? Que, ah, que diable me voulez-vous ? » ?»«
J'avais cru, monsieur, » répondit le pauvre John, qui avait la figure la plus pâle, la plus déconfite que M. Dorrit eût jamais vue,
même durant son séjour au collège de la Maréchaussée, « j'avais cru que vous ne refuseriez pas d'avoir la bonté d'accepter un paquet de... »«
Que le diable emporte vos paquets, monsieur !» interrompit M. Dorrit, de plus en plus furieux. « Je ne fume pas !»«
Je vous demande mille pardons, monsieur, vous fumiez autrefois. »«
Répétez ces paroles, » s'écria M. Dorrit, qui ne se connaissait plus de colère, « et je prends les pincettes pour vous apprendre à me parler ainsi. »
John Chivery fit quelques pas en arrière du côté de la porte.
« Arrêtez, monsieur, arrêtez. Asseyez-vous. Que le diable vous emporte. Asseyez-vous. »
Le visiteur se laissa tomber dans le fauteuil le plus rapproché de la porte, et M. Dorrit se promena de long en large dans la chambre. D'un pas très rapide d'abord, puis plus lentement. Il s'approcha un moment de la croisée et s'appuya le front contre la vitre. Tout à coup, il se retourna pour demander « Et quel autre motif vous amène ?»
« Je n'avais aucun autre motif au monde pour venir, monsieur, je vous assure. Je voulais seulement avoir de vos nouvelles et savoir si Mademoiselle Amy se porte bien. »«
Est-ce que cela vous regarde, monsieur ?» riposta M. Dorrit.
« Non, monsieur, je sais que ça ne me regarde plus. Je suis bien loin d'oublier la distance qui nous sépare, soyez-en sûr. Je sais que c'est une grande liberté, monsieur, mais j'étais loin de soupçonner que vous puissiez vous en fâcher. »
« Ma parole d'honneur, monsieur, » poursuivit le jeune John d'une voix émue, « je vous assure que je suis encore assez fier dans ce que je suis pour ne pas avoir risqué cette visite si j'avais pu prévoir comme elle serait reçue. » M. Dorrit fut tout honteux. Il retourna à la croisée et resta encore quelque temps, le front appuyé contre la vitre. Lorsqu'il se retourna, il tenait à la main un mouchoir avec lequel il venait de s'essuyer les yeux. Il paraissait souffrant et fatigué.
« Petit John, je suis très fâché d'avoir été un peu vif, mais, ah, il y a certains souvenirs qui ne sont pas agréables. Et, vous n'auriez pas dû venir. »«
Je le vois bien maintenant, monsieur, mais je n'y avais pas pensé. Dieu sait que c'était sans mauvaise intention. »«
Je le sais, j'en suis sûr. Ah, donnez-moi la main, petit John, donnez-moi la main. »
John la donna, mais M. Dorrit avait refoulé ses sentiments. Il la donna toute seule. Il n'avait plus le cœur sur la main, et sa mine, en dépit des avances tardives de M. Dorrit, resta blême et rechignée.
« Là, » dit M. Dorrit, lui secouant lentement la main, « asseyez-vous donc encore, petit John. »«
Merci, monsieur, mais j'aime mieux rester debout. » M. Dorrit s'assit à sa place. Après avoir tenu un instant sa tête dans ses mains, il se tourna vers son visiteur et lui dit d'une voix qu'il s'efforçait de rendre calme,
« Et comment va votre père, petit John ? Comment, ah, vont-ils tous, petit John ?»«
Merci, monsieur. Ils vont assez bien, monsieur. Ils n'ont pas à se plaindre. »«
Je vois que vous n'avez pas renoncé à votre petit commerce, John, » ajouta M. Dorrit, jetant les yeux sur le paquet insultant contre lequel il avait lancé un si énergique anathème.
« Pas tout à fait, monsieur. J'ai aussi, » John hésita un peu, « embrasser l'état de mon père. »«
Ah, vraiment? Et êtes-vous quelquefois de... De garde ? Oui, monsieur. Beaucoup de besogne, John ?
Oui, monsieur, pas mal pour le moment. Je ne sais pas comment cela se fait, mais en général, nous avons toujours assez de monde.
À cette époque de l'année, jeune John ?
En toutes les saisons, monsieur. Je ne vois pas que l'époque y fasse grand-chose. Je vous souhaite le bonsoir, monsieur.
Attendez un instant, John. Ah, attendez un instant.
Laissez-moi les cigares, John.
Vous prie.
Avec plaisir, monsieur.
John les posa sur la table d'une main tremblante.
Attendez un instant, John. Encore un instant. Ce serait, une satisfaction pour moi d'envoyer par un messager aussi digne de confiance un petit témoignage qui serait partagé entre les...
Entre eux, vous savez bien, selon leurs besoins.
Vous ne refuserez pas de vous charger de cette commission, John.
Bien au contraire, monsieur. Il y a parmi eux bien des gens qui ont grand besoin de secours.
Merci, John. Je vais vous écrire un mandat, John.
Sa main tremblait tellement qu'il lui fallut beaucoup de temps pour barbouiller un griffonnage à peine lisible. C'était un mandat de 100 livres sur son banquier. Il le plia, le mit dans la main de John et la pressa dans les siennes.
« J'espère que vous oublierez ce qui vient de se passer, John.
N'en parlons plus, monsieur. Ça n'en vaut pas la peine. Je n'ai pas de rancune. Pas le moins du monde, je vous assure. »
Mais rien ne put rendre aux traits de John leur expression et leur couleur naturelle.
« Et j'espère, John, reprit M. Dorrit, qu'il est convenu entre nous que cet entretien est tout confidentiel et que vous vous abstiendriez, en sortant, de dire à qui que ce soit un mot qui pourrait faire supposer que... j'ai autrefois... »«
Oh, je vous prie, monsieur, répondit John Chivery, de me croire trop fier et trop honorable dans ce que je suis pour rien faire de pareil. »
M. Dorrit, lui, ne fut ni trop fier ni trop honorable pour écouter à la porte, afin de s'assurer que John sortait sans causer avec les gens de la maison. Il put s'assurer que le jeune homme quittait immédiatement l'hôtel et descendait la rue d'un pas rapide. Après être resté seul 1 heure environ, M. Dorrit sonna le courrier qui le trouva assis devant la cheminée, le dos tourné à la porte.
« Vous pouvez prendre ce paquet de cigares pour fumer en route, si vous voulez, » dit M. Dorrit avec un geste plein de nonchalance.
« Ah, ils m'ont été apportés par... c'est un petit souvenir d'un... du fils d'un de mes vieux fermiers. »
Le soleil du lendemain vit l'équipage de M. Dorrit roulant sur la route de Douvres, où chaque postillon en veste rouge servait d'enseigne à quelque auberge cruelle, établie pour piller sans pitié les voyageurs. La race humaine, tout le long de la route de Londres à Douvres, semblait n'avoir d'autre occupation que de dépouiller les passants. M. Dorrit fut arrêté à Dartford, pillé à Gravesend, volé à Rochester, tendu à Sittingbourne et écorché à Canterbury. Cependant, comme c'était le courrier qui était chargé de tirer son maître des mains de ces bandits, ce fut le courrier qui le rançonna le mieux à chaque étape. Aussi les vestes rouges continuèrent à galoper gaiement à travers le paysage printanier, s'élevant et s'abaissant en cadence sur leur selle, entre M. Dorrit enfoncé dans son bon petit coin et la prochaine colline de la route poudreuse. Encore un jour, et le soleil retrouvera notre voyageur à Calais. Maintenant que la Manche le séparait de John Chivery, il commença à se rassurer et à trouver que l'air du continent était bien moins lourd que celui de l'Angleterre. Le voilà reparti sur la route raboteuse de Calais à Paris. Comme il avait retrouvé toute sa bonne humeur, du fond de son bon petit coin, il se mit à bâtir quelques petits châteaux en Espagne en courant la poste. Ce n'était pas un petit château, vraiment. Toute la journée, il n'était occupé qu'à y construire des tours, à en démolir d'autres, à ajouter une allée par-ci, un créneau par-là, inspectant les murailles, consolidant les remparts, ornant l'intérieur d'une foule d'enjolivements. En un mot, il en faisait un château magnifique. Son visage préoccupé trahissait si clairement le sujet de ses pensées que les mendiants invalides, hormis les aveugles, rassemblaient devant la poste aux chevaux qui présentait à la portière une petite tirelire bosselée en demandant la charité au nom du ciel, la charité au nom de la Vierge, la charité au nom de tous les saints, devinaient l'occupation du voyageur,
aussi bien qu'aurait pu le faire leur compatriote Lebrun s'il eût choisi le touriste anglais pour en faire le sujet d'un traité de physiognomonie. Arrivé à Paris, où il se reposa 3 jours, M. Dorrit se promena beaucoup dans les rues de la grande ville, s'arrêtant devant les magasins et surtout devant les joyaux en montre chez les bijoutiers. Enfin, il entra chez un joaillier en renom et lui dit qu'il désirait faire en plate d'un petit cadeau pour une dame. La charmante petite femme à laquelle il adressa cette confidence, petite femme bien éveillée et mise avec un goût parfait, quitta un bosquet de velours vert où elle était en train de mettre en règle certains petits registres qu'on n'avait jamais cru destinés à renfermer d'autres items de commerce qu'un compte de baisers en partie double sur un ravissant petit pupitre qu'on eût pris pour un bonbon. « Par exemple, demanda la petite femme, quelle espèce de cadeau désirerait monsieur ? Un sentiment ?» M. Dorrit sourit et répondit, « Eh, mais peut-être bien. Pourquoi pas ? Cela se pourrait bien. Le sexe était si charmant. Madame voudrait-elle bien lui en montrer quelques-uns ? » ?»« Très volontiers. Flatté et enchanté d'en montrer beaucoup à monsieur. » »« Mais, pardon, pour commencer, monsieur aurait l'extrême obligeance de se rappeler qu'il existe une grande différence entre un sentiment et un cadeau de noces. Par exemple, ces boucles d'oreilles et ce superbe collier qui vont ensemble sont ce qu'on nomme un sentiment, tandis que ces broches et ces bagues, d'un goût si gracieux et si pur, forment, avec la permission de monsieur, ce qu'on appelle un cadeau de noces. Peut-être, hasarda M. Dorrit en souriant, ne serait-ce pas un mauvais calcul d'acheter l'un et l'autre ? On commencerait par le sentiment, on finirait par le cadeau de noces. « Ah, ciel !» s'écria la petite dame, joignant le bout des doigts de ses mains mignonnes, « voilà qui serait tout à fait généreux. Une galanterie du suprême bon ton. Comment voulez-vous que la dame, comblée de si jolis présents, ne les trouve pas irrésistibles ?» Hé hé, monsieur Dorrit n'était pas trop sûr de cela. Mais, par exemple, la petite dame éveillée en était bien sûre, elle. M. Dorrit acheta donc le sentiment et le cadeau de noces qui lui coûtèrent l'un et l'autre une somme assez ronde. Puis il regagna en flânant son hôtel. Il n'avait jamais porté la tête si haute. Il était évident que son château, pour le quart d'heure, s'élevait déjà plus haut que les tours de Notre-Dame. Continuant de bâtir sans relâche et de toutes ses forces, sans communiquer à personne ses devis ni ses plans, M. Dorrit partit pour Marseille. Bâtissant encore, bâtissant toujours, du matin jusqu'au soir, laissant avant de dormir des masses énormes de matériaux suspendus en l'air, se réveillant en sursaut pour reprendre le travail interrompu et mettre en place moellons et pierres de taille. Pendant ce temps-là, le courrier, assis dans la capote de derrière, fumant les meilleurs cigares du jeune John, laissant voltiger après lui de petites spirales bleuâtres, bâtissait peut-être aussi de son côté un ou deux châteaux en Espagne, avec quelques pièces égarées de l'argent de M. Dorrit. Aucune des villes fortifiées qu'ils traversèrent ne possédait un château fort aussi solide, pas une cathédrale n'était aussi élevée que le château de M. Dorrit. Ni la Saône, ni le Rhône ne marchaient aussi vite que cet incomparable édifice. Le lit de la Méditerranée était moins profond que les solides fondations du château de M. Dorrit. Les paysages lointains sur la route de la Corniche, les collines et le golfe de Gênes la Superbe n'étaient pas plus magnifiques. M. Dorrit et son château sans pareil débarquèrent parmi les sales maisons et les forçats plus sales encore de Civitavecchia et se mirent en route pour Rome, se tirant tant bien que mal des ordures qui empestaient la route.